Oh là là, que c'est terrible, ce disque qui saute pour ce générique de spectaculaire qui commence. Enfin, émission numéro 183, Christophe Rollin au micro, Gérald est présent, Gérald Bortoluzzi, Gérald, notre invité, non, notre partenaire, et puis... Nous avons l'invité, Hervé Thibault, qui expose actuellement, un peintre, et qui expose à la galerie Jean-Louis Mandon, du mardi 8 janvier, et oui, ça a commencé hier, jusqu'au samedi 2 février 2019, la galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 20h, mais, auditeurs, auditrices, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je ne l'ai même pas indiqué je crois, le vernissage n'a pas encore eu lieu, oui, le vernissage est ce vendredi 11 janvier, entre 18h et 20h, donc vous allez pouvoir, pendant cette émission, comme toujours, entendre notre invité parler tout d'abord de lui, bien entendu, un portrait, et puis ensuite son activité de peintre, et précisément cette exposition qu'il fait à Lyon, et puis peut-être qu'on aura droit à des projections dans le futur, que fera Hervé Thibault prochainement, en 2020-2021. Le générique est en train de sauter totalement, alors on va passer tout de suite à notre première plage musicale pour introduire cette émission. Falinelli, un choix de notre invité, d'Hervé Thibault, bien il nous indiquera lui-même pour quelle raison il a choisi de commencer avec ce castra qui chanta notamment, bien entendu, à la Fenice de Venise. Vous nous écoutez sur le 102.9 de la bande FM à Lyon, et c'est une très bonne chose, puis vous pouvez également le faire sur internet radiocanu.org. On laisse le générique et on commence tout de suite avec Falinelli.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs sur Spectaculaire 102.2. Nous avons l'immense plaisir et bonheur et privilège de recevoir l'artiste Hervé Thibault, qui expose actuellement donc à la Galerie Mandon, dont le vernissage se tiendra vendredi prochain de 18h à 22h, même on aura le temps de discuter, de rencontrer l'artiste qui sera là, j'imagine, et qui vient nous parler de la peinture qu'il pratique depuis d'assez longues années, même si c'est un artiste discret, humble, moins connu que d'autres, et pourtant qui a beaucoup de choses à dire et qui pratique une peinture passionnante. Il va nous en parler, mais d'abord pourquoi ce choix musical
Même tout d'abord, bonjour, bonjour Hervé Thibault d'ailleurs.
Bonjour Christian Rollin, bonjour Gérald Bartolozzi. Je veux dissiper un malentendu concernant le choix du premier morceau que nous avons entendu. Certes, il est interprété par un castrat et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir une assimilation avec celui qui vous parle. Donc, ce préalable étant dissipé, je suis prêt à répondre à vos questions.
Ah ben, la première question, Gérald, pose là, elle est très simple. Hein.
Pourquoi avez-vous choisi ? C'était pour planter le décor, peut-être ?
J'ai choisi ce thème musical parce que j'ai l'immense privilège d'être ami avec Gérard et André Corbiot, qui sont les réalisateurs de ce film. Et il se trouve que je les rejoins dès après l'exposition à Bruxelles, où ils vivent une grande partie de l'année, afin de travailler avec eux sur l'élaboration de leur prochain film qui s'intitulera « Sauver Mozart ». Je ne pense pas être autorisé à dévoiler le nom de l'acteur principal, parce que les points de suspension sont, hélas, verrouillés.
Vous nous le direz hors antenne.
Oui,
hors
antenne, casting n'est peut-être pas encore arrêté, hein. En tout cas, c'est bien parce que d'habitude, on commence par la fin, mais c'est très bien de se projeter déjà dans l'avenir.
Un
et
projet.
Dans la troisième partie de notre émission, les projets et l'avenir. C'est la première fois que vous serez scénariste.
Scénariste, non, mais c'est pas la première fois. J'ai travaillé avec Jean-Charles Takela sur Cousin Cousine, sur Pays Bleu. J'ai travaillé avec d'autres réalisateurs, mais de façon comme ça improbable. La seule chose que je revendique, c'est de savoir tenir un bout de bois ayant des poils au bout.
Ben voilà. Vous commencez à répondre à notre question de début d'émission, à Gérald, allez, vas-y, c'est solennel.
C'est l'origine étymologique du mot pinceau, qui veut dire petit pénis en italien.
Absolument. Ce qui prouve que ça se rejoint tout avec le castrat.
Voilà. Bon, la thématique se prolonge.
Cela étant fait,
on va commencer par le début peut-être.
Volontiers.
J'ai cru comprendre, en lisant un petit catalogue que vous m'avez gentiment prêté hier soir, que vous étiez né dans le coin et que vous aviez passé des vacances dans la Dombe, que vous étiez un peu du cru et que vous avez été marqué par des paysages comme souvent les peintres, les artistes des Lumières.
Certes, j'accompagnais mon oncle chéri puisque j'ai eu des difficultés à être intégré dans la vie lors de ma naissance. On fera l'impasse sur cette origine.
Vous êtes libre de dire ce que vous souhaitez à l'antenne, au micro, hein, voilà. Hervé Thibault.
Mon cher oncle, mon grand-oncle, François-Nicolas, était pêcheur, aussi devant l'Éternel, mais surtout devant les étangs. Et je l'accompagnais très souvent. Et je commençais à faire des dessins, puis des aquarelles. J'ai jamais su faire d'aquarelles convenablement. Puis assez vite des huiles, et donc la thématique brumeuse, le soleil qui essaye de percer cette espèce de flanelle extraordinaire qui entoure les étangs, m'avait déjà subjugué.
Et est-ce que c'est ça le terme de halo ? C'est
halo.
Oui. Voilà. Non, pas avec deux L, c'est pas quand on répond au téléphone,
non,
c'est H-A-L-O, c'est de la lumière.
Idigameni pronto, mais halo de lumière.
Mais c'est à quel âge ? Parce que vous commencez tout de suite très jeune, Hervé Thibault, à peindre ?
J'avais 10 ans et à l'âge de 13 ans, François Badois, qui était lieur de livres à Pérouge, et moi allant assez régulièrement à Amberieu-en-Bugey, François s'est intéressé à mon travail, m'a fait faire des pages de garde pour des livres qu'il liait, et m'a proposé de faire une exposition à la Maison des Princes de Pérouge. Donc, cette exposition très improbable a admirablement fonctionné, puisque j'ai tout vendu, ce qui m'a permis de m'acheter un vélo. Rendez-vous compte, un peu de temps après la guerre, pouvoir s'acheter un vélo, c'était exceptionnel. Mmh. Donc, il en était décidé que je serais peintre.
Et la famille ne s'y est pas opposée ?
La famille a été un peu réticente, mais enfin, comme c'était des musiciens, des artistes, ils ont très très vite admis que je pouvais emprunter le chemin de la bohème.
Quelle chance.
Oui.
Un vrai métier.
Oui. Oui.
Et après, alors, vous faites des études, ça prenait votre métier.
J'entre aux Beaux-Arts avec une dispense, tout près d'ici. J'ai emprunté quantité de fois la
montée d'un théâtre,
le Beaux-Arts de Lyon. Cette année encore, les cours d'anatomie se tenaient au Palais Saint-Pierre, au dernier étage. Ça a été l'école des Beaux-Arts à un moment donné. Voilà, donc j'ai fait mes études la première année à Lyon. J'ai été horriblement bizuté parce que j'étais très très jeune. Et j'ai donc décidé de tenter ma chance à Paris, ce qui a été extrêmement compliqué pour l'émancipation, pour la survie, parce que si la famille était consentante au départ pour que je devienne un artiste, l'assistance laissait à désirer. Mmh. Ce qui m'a permis de devenir un peu insomniaque, puisque je travaillais la nuit au hall et j'allais à l'école le jour.
Donc un vrai bohème, mais parisien cette fois.
Un vrai bohème parisien.
On est dans les années
60.
Avant les années
60. Avant 68.
Oui, bien sûr.
Il me semble que vous êtes né donc en
1944. En 1944, oui.
Voilà.
Oui, absolument.
Et quelle carrière? Et vous peignez depuis, je crois, vous m'avez dit, 60 ans?
J'ai fait, cet été, j'ai célébré mes noces de diamant en peinture. Donc 60 ans, ma première exposition. Voilà. Mais je ne montrais pas. Je ne montrais pas parce que j'avais vu. Pour être moins hermétique, j'ai été sollicité pour rejoindre quelques salons et mon apparente humilité flirtait avec la prétention parce que je ne voulais pas cohabiter avec certains barbouilleurs pompeusement appelés artistes.
Allez-y, nommez-en un ou deux, là. Des décédés, comme ça, c'est facile.
Voilà, décédés.
Ce serait un fait. Donc voilà. Ouais. Mais j'ai cru que c'était de la pudeur, et en fait, j'ai réalisé par la suite que c'était infiniment prétentieux, mais j'en assume l'augure. Voilà.
Vous avez craché dans la soupe, mais peut-être un bon moment où il fallait le faire.
J'ai fait une tentative il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années à Lyon, courte, dans une galerie qui a été éphémère. Et bon, j'avais eu quelques reconnaissances, mais sans plus. Et j'ai continué, puisque ayant décidé d'aller vivre en Provence, dans le secteur de Saint-Rémy au départ, ensuite au pied de Gordes. Et là, j'ai installé une maison qui est devenue un cabinet d'amateurs, un atelier. Je vis dans un espace tout à fait convenable pour la création. Et le hasard a voulu que des chalands, des gens venant dans cette région, pénètrent mon atelier et se portent acquéreurs de mes œuvres. Ce qui fait que j'ai pu, pendant tant et tant d'années, ne pas dépendre d'un galériste et avoir cependant des collectionneurs dans le monde entier.
Régulier. C'est un grand privilège, ça.
Certains d'entre eux ont acquis jusqu'à 40 toiles, ce qui est tout de même la preuve d'un goût étrange.
D'une grande passion, en tout cas, pour votre œuvre.
Est-ce qu'on peut nommer ce voisin illustre que vous avez eu dans ce coin, dans cette région, Jean Lacouture? A-t-il plusieurs de vos œuvres? Avait-il eu décédé il y a de cela
Il y a trois ans. Alors, Jean Lacouture, je suis allé en Provence par Jean et Simone Lacouture. Je les avais rencontrés à la Maison de l'Amérique latine à Paris, lors d'une exposition qui était organisée par un architecte, Ramsès Ouissawassef, qui était un architecte kérote, et qui avait décidé de retirer les enfants des travaux obligatoires qui leur étaient imposés, leur faisait faire des dessins, des cartons de tapisserie, tisser les tapisseries, et exposait, et c'était cette exposition. C'était une exposition vente, et j'adorais le principe, puisqu'il consacrait le produit des œuvres à la construction de maisons pour les parents de ces jeunes artistes. J'ai donc rencontré Simone et Jean Lacouture, qui avait été correspondant de presse au Caire, et nous avons sympathisé, et nous avons passé 40 ans l'un près de l'autre, puisque pendant très longtemps, mon atelier était chez Jean et Simone Lacouture à Roussillon. Voilà.
Donc, il a quelques-unes de vos œuvres, oui?
Ben certainement, bien sûr, oui. Notamment, le portail de leur entrée dans Roussillon, qui est un immense portail que j'ai peint par deux fois pour faire une surprise à mon ami Simone. Et ce portail fut tellement photographié qu'un jour, une dame que je ne connaissais pas, qui habite exactement en face du portail, m'a appelé, m'a dit « Monsieur, j'aimerais vous rencontrer parce que j'ai un cadeau à vous faire, mais je voudrais que ce soit conséquent, passez donc me voir. » Je lui dis, bah, madame, de quoi s'agit-il? Je suis venu. Elle me dit, voilà, je vends. C'était évidemment l'époque de l'argentique. Je vends des appareils photo jetables et des films en quantité depuis que je me suis installé en face de ce portail qui a été photographié, sans exagérer, des milliers de fois. Donc voilà.
Décédés tous les deux, Simone, juste un peu avant
oui,
Jean Lacouture.
Absolument, oui.
Donc vous avez perdu ces illustres voisins.
Oui, et grands amis, très grands amis. Et
également, comment peut-on dire, préfacier, non? Enfin, il m'a semblé voir
une critique.
Oui, bien sûr, oui. Oui, mais je n'ai, là encore, je n'ai jamais osé user, c'est très difficile à dire pour un dyslexique, des renommées de mon entourage, parce que j'ai eu la chance de côtoyer énormément de personnages célébrité. Reconnus. Oui.
Voilà. Mais... Par exemple, je vous ai vu dans votre catalogue, alors on parlera d'autre chose, hein, si ça vous gêne, je vous ai vu, il me semble, avec monsieur Roger Vaillant.
Ah ben Roger Vaillant venait m'attendre à la sortie de l'école aujourd'hui, dans le contexte actuel avec d'autres cardinals, ce serait terriblement ambigu. Mais...
Hop, bon. Une allusion à l'actualité lyonnaise.
C'est bien, ça fait du bien.
Monseigneur Barbarin, voilà, si vous écoutez Radio Canu, ça c'est pour vous.
On va reparler puisque voilà. On parlera de l'exposition.
Donc Roger Vaillant, je peux rencontrer dans quel raconter dans quel contexte je l'ai connu.
Vous êtes libre de vos propos.
Alors,
à 15h.
J'allais à l'école à Ambérieu-en-Bugey et lors d'une sortie scolaire de fin d'année, la classe a gravi la distance entre Ambérieu-Centre et le château des Alimes. Or, un de mes amis, Christian Carillon, pour ne pas le nommer, il s'agit d'une prétention, voilà. Dit-on, m'a confié que sa mère avait refusé de lui faire un sac. Je lui dis, écoute, ça tombe bien, je n'ai pas faim, et je lui ai donné mon casse-croûte. Donc, quand nous sommes arrivés aux Alimes, ça n'était pas une cour d'école comme je croyais, mais une pelouse, sans barrière alentour. Et au bout d'un moment, n'ayant rien à manger, je me suis un tout petit peu isolé, j'ai contourné, je suis entré dans le village, le hameau des Alimes, et j'ai vu un monsieur accroupi qui glissait des sarments de vigne entre deux briques. Il y avait un feu qui l'entretenait. Et quand il s'est relevé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et j'ai un peu fléchi, je lui ai dit, écoutez, je reste pas parce que j'ai donné mon casse-croûte à un copain. Il m'a dit, ça c'est super, tu vas manger avec nous. Et il m'a fait cuire un saucisson dans le papier avec du vin dedans, dans la braise. Et à partir de ce moment-là, nous avons entretenu des rapports fort courtois, puisqu'avec sa traction grise, il venait me chercher à la sortie de l'école, et j'allais faire mes devoirs sur la table de son bureau, qui était une table de ferme. Il y avait des géraniums dans la pièce pour les moustiques, et je faisais mes devoirs avec lui. Voilà.
Quelle belle histoire.
Est-ce que tu as d'autres noms à évoquer? Moi, j'en ai un.
Non, ça fait trop.
Oh, mais si, non, mais parce que...
Un dernier pour la route.
De la peinture. Décédé également il y a très peu d'années. Lyonnais, je crois aussi, oui, me semble-t-il, assez local. Jacques.
Ah, ben Jacques Truffemus. Oui, bien sûr, mais c'est un ami de très longue date. D'ailleurs, nos épouses, puisque j'ai épousé en 1963 1965 Françoise Pansu, avec qui nous avons créé l'Académie d'Expression à Lyon, et Jacques et Aimé Truffemus nous accompagnaient dans l'Ain, à Jurieu, d'où mon épouse était originaire, et nous allions à Varambon manger des grenouilles, du fromage blanc, etc. Enfin, bon, j'ai suivi, en étant très en retrait, la carrière de ce monsieur timoré, timide, ayant un geste fort élégant et un grand peintre, s'il en fut. Mais les dernières années, nous avons pris un peu de recul, et je dois avouer que la dernière fois que je l'ai croisé, c'était au funérailles de mon ex-première épouse.
Moi, je voulais évoquer cet homme-là, Jacques Truffemus, en termes peut-être, Gérald, en termes esthétiques, et oui, ce qu'il va y avoir, parce qu'on va y arriver, là, on va diffuser un peu de Weber pour faire notre pause musicale, mais ensuite, il faudra que nous évoquions plus précisément cette exposition qui a lieu à la galerie Jean-Louis Mandon. Enfin, voilà.
Tu veux savoir s'il y a des points communs entre les deux artistes?
Je ne sais pas, en termes techniques, peut-être
bon,
aussi.
On a des points communs, c'est que nous avons eu les mêmes professeurs.
Et voilà.
Bon. Avec 10 ans, 15 ans d'écart. Mm-hmm. Mais enfin, certains professeurs, Chartres, vieillis, très allés, voilà. Etc. ont été mes profs et avaient été ceux de Jacques.
Donc ça laisse des traces, hein, la vision de la touche, peut-être de la lumière, des clairs-obscurs, je ne sais pas ce que ça laisse exactement, précisément, on ne pourrait pas identifier.
C'est très bien, on revient à la dombe, comme ça, ça fait une sorte de boucle. Est-ce qu'on pourrait dire comme ça, de manière très, très sommaire, résumer votre entrée dans la peinture, à ces parties de pêche, dans la dombe? Parce que c'est quand même la question essentielle, c'est pourquoi Hervé Thibault, êtes-vous venu à la peinture? Ce sont des émotions esthétiques.
Je voulais bien sûr traduire mes émotions, mais je souhaitais aussi, ce qui n'est pas simple, transposer le perçu sur la toile. Et je serais tenté de citer Lacan qui disait que le tableau ne rivalise pas avec l'apparence, il rivalise avec ce que Platon nous désigne au-delà de l'apparence comme étant une idée.
La caverne, c'est ça le mythe. Bon, je pense qu'il va falloir peut-être
on va
se ménager une pause.
Nos auditeurs.
Exactement.
On va peut-être de Lacan parce qu'elle est vertigineuse.
Oui.
On pourrait parler pendant 3 heures d'esthétique à partir de ça.
Nous allons, Gérald, on va essayer d'obtenir le nom du premier rôle pour Le Sauvé Mozart de Gérard Corbiot. Et donc, on passe à une autre pause musicale. Non plus Farinelli, mais nous passons à des. Je pensais que c'était une symphonie, non? C'est plutôt un concerto, c'est ça? Concerto pour basson et orchestre.
Oui, voilà, basson. Ouais.
C'est le dernier mouvement, c'est ça que vous souhaitez diffuser? Ben, très bien.
Après Christophe Rousset tout à l'heure en direction musicale, c'était la BO du film Farinelli, évidemment.
Et donc là maintenant, l'ensemble c'est le Tapiola Sinfonietta avec Jaco Luoma au basson et Jean-Jacques Kantorov, le directeur, le chef d'orchestre. Écoutons donc cette fin du concerto pour basson et puis nous continuons, 14h25, c'est une très bonne heure, nous continuons sur Spectaculaire avec Hervé Thibault, très bonne compagnie. Il expose actuellement à la galerie Jean-Louis Mandon, ça a commencé mais... Rassurez-vous, auditeurs, auditrices, il y a encore beaucoup de temps jusqu'au samedi 2 février, entre 14h et 19h, du mardi au samedi, pour voir ces différentes toiles de différents formats. Mais on en parle juste après le basson de Weber.
Merci. Oh,
écouter Weber.
C'est ça, concerto pour basson.
Pourquoi ce choix, monsieur Hervé Thibault, qui est notre invité du jour?
Et qui est plutôt peintre, hein, enfin du moins même carrément peintre.
Parce que j'aime Weber et que j'ai été sensibilisé par un de mes grands amis, sinon mon meilleur ami, Jean Palerbo, qui m'a accompagné dans le choix de cette musique, pensant que ce morceau de Weber correspondait bien à mon travail.
Il y a une relation entre Weber et Mozart, je crois. Il me semble que Mozart, dont vous, sur lequel vous êtes en train de travailler pour un prochain projet, il me semble que Constance Weber, je crois, la fille de Mozart, oui. Mozart, et devient Constance Weber, l'épouse de Weber.
Alors ça, je depuis le confirmer, parce que je l'ignore.
Quoi qu'il en soit.
Un peu d'érudition, mais c'est pas tout à fait nécessaire.
Les animateurs de cette radio sont de grands érudits, vous pouvez le constater.
Vous aurez compris que vous, monsieur Thibault, vous êtes érudit, vous êtes mélomane, vous êtes collectionneur. Vous avez un cabinet de curiosité, sans doute chez vous, une belle collection, et vous peignez depuis l'âge de 10 ans, avec passion et avec talent. On va peut-être en venir à cette exposition.
Galerie,
qui n'a pas de titre, qui s'appelle simplement, en toute modestie d'ailleurs, toujours peinture.
Oui,
l'adresse Gérald, est-ce que tu peux.
Effectivement, alors c'est rue Vaubecourt, hein. La galerie Mandon, c'est aux 3 rue Vaubecourt, juste après la fac.
Cato, c'est ça. Mais on peut, voilà, pour expliquer, c'est quoi? C'est 100 mètres, 50 mètres de la place.
Oui, après le rond-point, là, sur votre gauche, quand
vous descendez vers Perrache.
La galerie de Jean-Louis Mandon se situe exactement en face de l'appartement de feu Jacques Truffemus.
En plus.
Voilà.
Vous ne pouvez pas vous louper. Donc ça s'appelle peinture. Donc la galerie est de taille modeste, mais on peut y mettre beaucoup de peinture, et notamment des grands formats.
Quand on entre, tout de suite,
il y en a toujours un en vitrine qui est très bien éclairé. Là, c'est une façade
Le Palazzo Dario qui est sur le Grand Canal de Venise.
Voilà. Une de vos thématiques majeures et une de vos passions.
Oui.
Mais il y a aussi d'autres choses. Je vais simplement égrener un certain nombre de titres qui sont exposés. Hein. Il y a des grands formats, puis des tout petits, des plus petits. Il y en a pour tous les goûts. Donc, on a Ombre chinoise sur l'Hôtel de Ville. Le Grand Cœur.
Sur l'Hôtel Dieu, pardon.
Sur l'Hôtel Dieu.
Oui.
Merci. Le Grand Cœur.
Cœur avec un H.
Oui, bien sûr. On en reparlera de ce tableau assez impressionnant, d'une ribambelle de visages suggérés, très présents et en même temps évanescents.
Oui.
La bouche ouverte, très
intéressant. C'est très difficile de peindre autant de gens la bouche ouverte.
C'est ça, sans que ça soit grotesque, soit burlesque, soit ridicule, soit Ensor, un peu à la Ensor.
Voilà.
L'Opéra de Gabriel à Versailles, le Palais de l'Hôtel de Ville, la Fenice, les Cardinaux. Et puis un tableau qui est très très drôle, on en parlera si vous voulez, vous aimez bien Sacha Guitry. Et le titre du tableau est « Le théâtre est né de l'Église, elle ne lui pardonnera jamais ». Nous avons aussi le Grand Office. Et puis des petits paysages aussi, de tout un tas d'autres tableaux de taille plus réduite en série.
Alors la thématique actuelle tourne autour d'un certain mysticisme. J'avoue être agnostique, mais cependant mystique. Et je dois avouer que si pour écrire c'est impossible d'entendre une œuvre interprétée, quand l'on peint, pas toujours, mais c'est tout à fait possible. Et ces derniers temps, les œuvres que je présente chez Jean-Louis Mandon sont des thèmes d'office, de cérémonie, d'incantation. Voilà, donc ça correspond à mon état d'esprit actuel.
Ce sont des toiles récentes que vous avez peintes.
Très récentes.
Ces années-là, ces dernières années.
Mais il y en a une qui n'est pas tout à fait sèche.
En plus.
Oui.
Qu'il faudra encore vernir le soir du vernissage.
C'est très amusant.
On parlait de vos points communs éventuels tout à l'heure dans une certaine forme d'inspiration, de vision de la lumière ou de la sensation ou de l'émotion esthétique avec Jacques Truffemus. Mais je trouve qu'en voyant ce carton, qui est donc un détail du tableau qui est en exposition, il y a un rapport à la matière.
De Cotavos.
Peut-être.
Parce que Cotavos a peint beaucoup en pâte.
Voilà. Il y a une autre pâte, quoi, qui est quasiment sculptée dans un esprit proche du bas-relief, finalement.
Mais ça a été une tendance de l'école lyonnaise du 20e et 21e siècle, les empâtements, et sans faire de la psycho à la petite semaine, mais je veux préciser que ce mode opératoire d'empâtement correspond pour moi à la phase anale, c'est-à-dire que très souvent on considère que l'enfant se souille et décore la proximité de son lit de ses excréments. Ce que l'on ignore, c'est que c'est un don C'est une générosité. Or, dans mes empattements...
Le cadeau.
Voilà le cadeau.
Un cadeau.
Voilà.
Et donc, on vous a coupé. Ça, c'est un reste que vous avez, que vous assumez tout à fait.
Mais j'aime souvent revenir à l'empattement parce que ça me repose de la fluidité. Parce que ce que j'essaie de faire dans l'étoile que vous venez de citer, sur l'Hôtel Dieu notamment, c'est un thème qui me préoccupe beaucoup parce que j'adore cette masse de soufflot, cet ordonnancement d'un équilibre parfait. Et j'ai tout traité en jus, c'est-à-dire c'est extrêmement mince. Je travaille aussi beaucoup au bistouri, c'est paradoxal, mais j'utilise énormément de bistouri parce que je gratte. Et il existe des tableaux qui n'ont pratiquement plus qu'une diaphanéité, mais au sol, il y a tout un petit tas de pigments qui ne sont plus utilisés puisqu'ils ont été grattés.
Je l'ai lu quelque part, ça, le chevalet, une fois vos œuvres terminées, le chevalet est plus rempli que la toile. Enfin, voilà. Je ne sais plus quelle était,
voilà,
quel était mon employé.
C'est
un travail de disparition, de voilà. Grattage,
oui,
qui prend beaucoup de temps.
Oui.
Et entre le jus et entre la matière et l'empattement, il y a tous les degrés infinis de la richesse picturale. Et c'est là où on voit que vous êtes un grand peintre, finalement.
Je mesure 1m72.
Voilà, dans la tradition, peut-être de qui ?
Ah, d'accord, vous reprenez les mots de François Hollande qui, je crois, inaugurant le musée Rodez, le musée à Rodez, le musée Pierre Soulages, a dit « Nous avons affaire là à un très grand peintre ». Oui, effectivement, je crois qu'il fait 1m80,
ah, davantage encore. Bon, il est beaucoup plus grand.
Moi, j'ai lu quelque part le mot de scalpel. C'est un peu
c'est la même chose.
Voilà,
que bistouri.
Que bistouri,
c'est pour opérer. C'est un outil de chirurgien.
Oui.
Et d'ailleurs, comme disait, à propos d'un autre peintre que vous n'appréciez peut-être pas, comme Bacon.
J'adore Bacon.
Voilà, il y a des points communs d'ailleurs.
Alors, je l'adore de par son mode d'expression, mais il me rassure aussi. Enfin, ça, c'est une anecdote parce que, ayant une prédisposition fâcheuse au désordre, j'ai dans mon atelier une photo de l'atelier de Bacon qui a une stratification telle que le mien paraît être une salle d'opération.
Voilà, clinique.
Voilà. Et le bistouri.
Bacon disait qu'il faut commencer un tableau au balai et le finir à l'épingle.
Bien sûr.
Et puis nettoyer les clichés, qu'une toile vierge et blanche n'était en fait que rempli d'amoncellement de clichés, de déjà-vus, dont il fallait se débarrasser.
Mais je partage cette analyse.
Voilà, ça se voit dans votre travail. Il y a des choses à voir avec Bacon, même si c'est éloigné. Il y aurait peut-être plus à voir peut-être avec Cottavus, avec Truffemus, avec les Vénitiens. Moi, je pense à Tintoret aussi. Je pense à certains Utrillo en pâte, peut-être.
Oui.
Même si c'est pas un peintre que j'aime beaucoup.
Moi non plus.
Je vous préfère, vous, d'ailleurs.
Merci.
C'est gentil. Non, mais mettre, pourquoi pas, des hautes pâtes de Dubuffet.
Oui, bien sûr.
Parce que vous êtes d'accord avec Joël Couve, un des auteurs de votre catalogue,
qui est très turiféraire, très prolixe, voilà. Et qui a admirablement bien analysé mon mode d'expression.
Enfin, je suis d'accord avec lui parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'abstraction, l'abstraction n'a jamais existé.
Voilà.
Il y a une non-figuration dans le sens où on ne peut pas reconnaître certaines formes qui ont été trop représentées, qu'on n'a pas intégrées dans notre cerveau, mais l'abstraction n'existe pas.
Bien sûr.
On est là dans la restitution, la transposition émotionnelle d'un sentiment qui devient un don.
Comme vous parlez bien.
C'est ça.
Moi, j'ai un nom. J'ai un nom aussi qui me vient en tête. J'aime bien ses initiales. Je crois que c'est William Mallord, il me semble. C'est son prénom, William Mallord. Je n'ai pas encore donné son nom de famille, un peintre anglais.
Turner.
Qui peut-être aurait apprécié la dombe, puisqu'il y a quelque chose pour ce qui est. Alors, c'est pas l'ensemble de vos toiles, mais pour certaines.
Ah ben oui,
il y a quelque chose du traitement de la lumière, du halo.
Voilà ce qui me mettait dans un grand embarras, mais très souvent. En voyant mon travail, on a évoqué Turner. C'est vous dire si le pourpre envahissait mes joues, mais j'en utilise très peu dans ma peinture.
Mais bon, vous l'appréciez ou au contraire
Je l'adore. Je retourne prochainement à Londres pour en revoir.
Donc pour aller, on se
grand office, notamment.
Au Tate, il faut aller à la Tate Gallery, non pas la moderne, il faut aller la Tate en bord de Tamise, quoique les deux sont en bord de Tamise, et il faut admirer, il y en a combien de toiles, il y en a une trentaine je crois, et c'est absolument saisissant. C'est certaines, peut-être est-il encore un peu jeune, je crois, c'est trop pour le coup, on pourrait dire figuratif, alors que les dernières...
Elles sont narratives.
Mais les dernières, il n'y a plus rien, il n'y a que de la lumière, les dernières.
Un train espace lumière, c'est ça qui a tellement marqué Monet, les impressionnistes, et qui a créé l'école impressionniste quand même. Faut pas oublier.
Et là pour le coup, Gérald, oui, parce que moi je suis tout à fait ignare, c'est beaucoup de boulot. Oui, Hervé Thibault, pour arriver à ses dernières toiles,
cette virtuosité-là, et puis en aquarelle.
C'est extrêmement difficile de donner l'impression que c'est facile.
C'est ça, en fait.
Et Et pour le coup, alors voilà, la matière n'est pas la même. Parce qu'il me semble que chez vous, Hervé Thibault, il y a vraiment, tu l'as indiqué avec ces termes-là que je n'avais pas.
Il y a de la sculpture en bas-relief.
Oui.
Parlez empattements.
Oui.
Assez précise. Mais pas systématiquement.
Je rejoins la thématique, entre guillemets, de Turner, avec beaucoup plus de pâte.
Voilà.
Beaucoup plus de pâte. Très bien, oui. Ouais. Alors, ce ne sont pas. On parlait d'aquarelle, c'est de l'huile, là, c'est ça?
C'est
de l'huile.
Je ne travaille qu'à l'huile. Je ne travaille qu'à l'huile. J'ai essayé de travailler avec de l'acrylique, mais le repentir n'est pas possible, alors que.
Vous gommez aussi. Ah, j'ai bien aimé l'expression.
Oui,
je vous en prie.
Oui.
Achevez. Donc, le repentir n'est pas possible avec l'acrylique.
Oui, parce que j'aime Madame Yourcenar qui dit que c'est important d'écrire avec une gomme. Et j'ai très envie de parler encore de Madame Yourcenar en disant
Marguerite
un instant encore, pardon.
Marguerite de Crayencourt,
Marguerite de Crayencourt,
un instant encore.
Un instant encore, regardons ensemble les rives familières. Lorsque les objets, sans doute, nous ne reverrons plus, tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts.
Les yeux grands ouverts.
Et c'est la phrase qui clôt votre catalogue.
De Stanley Kubrick.
Qui est très belle, avec une fenêtre.
Voilà.
Un peu matissienne, un peu tout ce qu'on veut, qui ouvre sur
voilà.
Le mystère.
Oui, mais alors, attention, nous jouons beaucoup au lacanien pendant cette émission. Moi, quand j'ai lu cette phrase de Marguerite Yourcenar, et quand j'ai lu également vos propos, moi, j'ai lu un peintre à la gomme. Et il me semble... vous avez dit, je veux être un peintre à la gomme. Ou disons, je veux peindre à la gomme. Vous avez dit, oui, c'est vrai, je transforme le dé en T.
Si vous considérez que je suis un peintre à la gomme, j'accepte l'objet.
Non, ce sont vos propos à vous. Ah non, Hervé Thibault, mince, excusez-moi, je vous manque de respect, mais c'est pas le... Mais enfin, comprenez la chose, parce que c'est intéressant, il peut y avoir... Enfin, c'est pour le repentir, vous disiez, c'est pour gommer, voilà.
Oui, gommer, c'est faire disparaître l'excédent.
D'accord.
C'est aller à l'essentiel, voilà.
À la quintessence.
Voilà.
L'épuration.
Mais j'aime bien le peintre à la gomme.
Non, mais moi, c'est en lisant ça, je me dis, c'est très intéressant, et puis
et,
bon...
Et là, on soupèse tout le génie de Turner, justement, dans l'absence de repentir, et on voit les aquarelles, notamment les séries vénitiennes,
oui.
Qui font parfois 7 cm sur 10, avec un spectacle total.
Oui, tout est dit.
Et tout est dit, avec très peu de choses, très peu de moyens, et c'est somptueux, parce qu'on a tout, on a la lumière, on a le détail d'une gondole, on a les personnages, on a tout. Et on retrouve ce sens de la synthèse plastique chez Hervé Thibault.
Merci.
De la manière d'extraire l'essentiel d'une forme, d'une lumière, d'un corps, d'un cierge, d'une bougie, d'un luminaire. Parce que ce qui est difficile, ce qu'on n'a pas encore dit, moi c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans la galerie, c'est que le thème majoritaire de cette nouvelle exposition, c'est quand même l'architecture, c'est le lieu. C'est aussi peut-être aussi le décor architectural, le tympan, l'ornement. Il y a une dimension au détail, au dessin en fait. Et le dessin se fait matière, se fait empattement. Et ce qui est impressionnant, c'est cette rigueur, cette présence en fait.
Alors moi j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure, Hervé Thibault, l'école lyonnaise. J'aimerais bien que vous définissiez peut-être un peu ce qu'est cette école lyonnaise. Et puis Gérald, c'est très bien les titres que tu as lus tout à l'heure, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est dire que ces titres correspondent à chaque fois à des façades, à des lieux, des monuments qui sont pour le coup certains lyonnais. Vous avez corrigé, vous avez dit l'Hôtel Dieu, il y a la façade des Célestins, il y a également
il y a l'Hôtel de Ville.
Il y a voilà l'Hôtel de Ville. Alors, après il y a un intérieur, je pense
Saint-Jean,
les Célestins,
Saint-Jean.
Et puis j'ai beaucoup peint la grille du parc de la Tête d'Or. C'est très 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 difficile. Et puis, mais j'aime ma ville et j'aime la narrer.
Voilà. Et alors cette école lyonnaise, elle...
Alors moi je suis un peu dissident de l'école lyonnaise parce que c'est un rassemblement de contemporains voulant fuir la référence des ismes, impressionnisme, etc., ont voulu s'appeler les sans-ismes, mais il y avait un nouvelisme,
bon, oui.
Si je puis dire. Bon, pour ce qui me concerne, on m'a quelquefois assimilé à ceux-là même que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire Fusaro, Truffemus, la Chieseraie que j'adore, et le tableau des personnages du Grand Cœur, pour moi c'est un hommage à Henri la Chieseraie qui nous a quittés vraiment trop tôt. Ces gens-là avaient un mode opératoire qui justifiait l'école lyonnaise. Moi je suis un héritier d'eux, voilà.
Et un hérétique. De l'école lyonnaise. Mais on parlait de l'école de Paris à un moment.
Oui.
Mais définissons en termes, je sais pas moi, de dimension de toile, en termes de matériaux, est-ce que c'est à l'huile,
l'aquarelle, mais c'est un rapport à la figuration, c'est un rapport au sujet, au thème. On n'abandonne pas le rapport à la sensation colorée, picturale, à la matière, à un certain savoir-faire, on peut le dire.
Moi, je me rapproche le plus d'un peintre qui a rejoint l'école lyonnaise, bien qu'étant parisien, qui s'appelle Eric Schmidt. Je suis un collectionneur fou d'Eric Schmidt. Et une anecdote, lors d'un premier divorce, je suis parti en prenant ma brosse à dents. Ce qui m'a le plus manqué après notre séparation, c'était nos Schmidt. Donc, redémarrer une vie après un divorce, c'est assez difficile. Ce fut très long pour moi de pouvoir me porter acquéreur des toiles de Schmidt. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir un certain nombre. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que dans mon bureau bibliothèque, lorsque des amis me rendent visite, levant les yeux et découvrant des Schmitt, me disent « Oh, j'aime beaucoup ce que tu as fait là ». Donc, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Voilà, Eric Schmidt.
Ça, c'est intéressant. Peintre collectionneur, je lisais dernièrement des écrivains lecteurs, mais oui, c'est important.
Tous les vrais peintres sont collectionneurs.
Alors, je revendique être un grand, grand collectionneur parce que j'ai une maison assez grande de 380 mètres carrés qui est remplie d'objets d'art.
À Gordes, hein, c'est ça, dans le sud.
Près de Gordes. Ouais. Et c'est tout à fait justifié par le fait que j'ai esquissé ça tout à l'heure et j'y reviens. Je suis un fils naturel. Or, les fils naturels à Lyon n'ont droit à rien. Sont privés de tout ce qui peut leur revenir. Donc, lorsque j'ai pris mon émancipation vis-à-vis même de ma première épouse, au lieu d'être un descendant, j'ai décidé de devenir un ancêtre. Et pour ce faire, j'ai constitué une collection assez babylonienne, qui est à la limite de la pathologie, mais...
Comme toute collection.
Vous avez dit,
on revient au rapport à la
réalité. Objet d'art, je crois, pas seulement objet ou œuvre, c'est un peu la même chose, mais c'est
tableaux,
pas forcément.
D'accord. Et très prochainement, des origamis de notre ami Gérald.
Avec plaisir quand vous voulez. Donc, je viendrai vous voir dans votre musée personnel.
Donc vous avez constitué cette collection pour devenir ancêtre et transmettre, c'est ça?
Et transmettre, absolument, voilà.
Bon.
Et qu'est-il temps d'écouter
Alessandro Magnasco? On pourra parler de l'école vénitienne peut-être, ou des Italiens, votre passion pour Venise.
Oui.
On pourrait parler aussi, oui, et puis peut-être aussi d'une dimension de votre travail que j'ai eu la grande surprise de découvrir dans votre catalogue.
Boîtes, il y a quelque chose qui n'est pas là-dessus, oui. Parce que le catalogue a été édité il y a déjà longtemps.
Il y a 16 ans, oui.
Mais depuis j'ai fait des boîtes, c'est-à-dire des boîtes à mémoire. Faut que vous veniez voir ça.
À la Joseph Cornell.
Vous êtes invité tous les
deux. À la Joseph Cornell.
Voilà.
Parce que là, déjà, il y a une dimension très étrange. Vous rendez hommage à De Staël, mais c'est avec du zinc. Il n'y a plus de peinture, ça devient des collages dadaïstes dans l'esprit de Schwitters et d'autres dadaïstes.
Schwitters, que j'adore.
Voilà, que vous citez d'ailleurs. Oui. Vous citez plein de poètes, Rimbaud, vous citez Proust, Malebranche. Oui. C'est vertigineux ce catalogue, parce qu'on voyage dans le temps, l'espace, les lieux.
Est-ce qu'on écoute Didrai Groschanova? Je ne sais plus quel est le moment que vous nous réservez. Est-ce que c'est la complainte de Makith ou c'est autre chose? Hervé Thibault, vous ne savez pas.
Surabaya Johnny peut-être. Ah non, ça c'est autre chose.
Je ne sais pas. En tout cas, je sais que vous nous avez préparé donc un titre de Didrai Groschanova, le Three Penny Opera, l'opéra de 4 sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Nous avons ici un enregistrement c'est par l'ensemble moderne. Dirigé par S. Bien Gruber. Écoutez, nous allons justement écouter et puis ensuite nous reprenons fin d'émission pour des remarques encore et des réflexions d'Hervé Thibault sur l'exposition qui, tu l'as dit Gérald, ne porte pas de titre. Hervé Thibault, peinture.
Si, peinture.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est un titre. Et quand un artiste.
Pas au pluriel.
Et pas, en plus. Pas, effectivement, pas au pluriel, du mardi 8 janvier, c'est-à-dire que ça a commencé hier jusqu'au samedi 2 février. 2019, vernissage, le vendredi 11 janvier de 18h à 22h, et sinon la galerie elle-même est ouverte du mardi au samedi de 14h à 20h, ça fait quand même une belle amplitude. Alors oui. Certes, ce n'est pas en matinée, mais quand même la fin d'après-midi, ou voire début de soirée, on peut encore à 19h se rendre dans cette galerie, dans cet espace pour voir ces différentes toiles. Tu parlais tout à l'heure des petites...
Il y a des petits paysages et de petits formats beaucoup plus abordables d'ailleurs. Pour les collectionneurs qui nous écouteraient, il y a des formats de petites tailles qui sont très abordables. On peut acheter.
Eh bien voilà, c'est une galerie, mais ce n'est pas un musée, donc on peut acquérir ces toiles. Écoutons le Drag Ocean Hopper et puis nous reprenons en fin d'émission avec Hervé Thibault, toujours sur Spectaculaire, Radio Canus 102.2. Meine Herren, heute sehen Sie mich gläsern, abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem.
ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen. Darin. Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich sehen treten, aus der Tür gehen morgen und man fragt, die hat darin gewohnt? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen flaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen und man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören. Alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit
in diesem Augenblick erscheint Londons oberster Polizeichef Brown. Die Banditen nennen ihn Tiger Brown. Er ist ein guter Freund Mackie Messers, von dessen Schandtaten er...
Vous êtes bien sûr Radio Canu, et vous écoutez Spectaculaire, 102.2 sur la bande FM, et podcast à volonté pour l'éternité à réécouter sur le site et le blog.
Sur le blog.
Nous recevons Hervé Thibault, il ne nous reste plus que 7 minutes ou 10 minutes parce que le musée Canu.
Oui, il est déjà prêt.
Donc, déjà allez, prêt.
Mettons ça.
Mais nous allons pouvoir finir avec notre invité qui va nous parler peut-être d'un autoportrait. Je viens de feuilleter son catalogue.
À l'instant, moi, je viens de couper la chanson que chantait Lily, peut-être ça, Tiger
oui,
Lily, je
de
sais
l'opéra
plus.
De Katsu, puisque Kurt Weill, Brecht.
Ça allait enchaîner sur la complainte de Mackie Messer, donc on coupe là.
Donc, un tableau qui n'est pas daté, voilà, il n'y a pas trop de dates dans votre catalogue.
C'est un tableau qui a une trentaine d'années,
qui s'appelle Le Philosophe.
Que j'avais intitulé Le Philosophe et qui, en fait, est un autoportrait. Portrait prévoyant ce que je risque de devenir demain. Donc c'était une hypothèque à long terme. Donc je ne voulais pas me séparer de ce tableau à aucun prix. Donc j'avais mis au dos collection personnelle. Or un jour, je reçois un appel téléphonique au moment du déjeuner. Je déjeunais sur la terrasse comme ça arrive souvent en Provence. Et un monsieur m'appelle et je suis presque désobligeant. Il dit, écoutez, vous faites un métier bien difficile, mais le démarchage téléphonique m'apporte une. Il dit, monsieur, je suis désolé, mais je suis devant la chapelle à côté de chez vous et je ne trouve pas votre porte. Donc je sors de la cour, je fais des signes, j'accueille un couple qui me dit, voilà, on a découvert sur votre site votre travail et nous venons de Carcassonne pour choisir une toile. Donc je les accueille mieux, ils prennent possession de leur hôtel, reviennent à l'atelier, regardent longuement, et le soir, au moment où ils me prient à dîner à leur table, ils avaient déjà sélectionné 10 toiles. Donc le lendemain, ils me disent, nous terminerons demain, et le lendemain, ils reprennent 10 toiles. Donc arrive le moment que je déteste par-dessus tout, c'est le moment du négoce.
Oui, oui.
J'ai une phobie terrible des chiffres et de l'argent, et bon, cependant. Donc, je leur dis, comment souhaitez-vous que nous procédions ? Je veux, bien évidemment, je vous dois une élégance. Je vous consens une remise. Et elle me dit, non, vous nous offrez une toile. Je dis, bah, bien volontiers. Elle me dit, je veux celle-là. Elle a choisi celle que je...
Bon. Évidemment.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années ont passé. Le couple a explosé. Celle qui a succédé à la dame qui m'avait pillé ce tableau détestait ma peinture. Ça existe. Et je conçois très bien que cela existe.
Ouf, on sent une belle fin peut-être.
Elle m'a dit, je n'aime pas votre travail. D'ailleurs, j'ai tout repris. Alors là, je suis devenu blême. En fait, elle avait affublé mes tableaux de colifichets, de colliers. Elle avait posé des post-it. Enfin, bref. Donc, nous sommes allés, mon fils et moi, chez ce monsieur dont je ne veux pas donner le nom. Nous avons en effet trouvé des toiles dans un grand couloir au sol. Et à un moment donné, j'ai retrouvé mon autoportrait, pompeusement appelé le philosophe. Je lui ai dit, écoute, je te propose ceci. Je récupère ce tableau et vous le troquerez contre mes nouveaux travaux que vous avez tant, des boîtes, etc. Donc j'ai pu, 10 ans après,
remettre
récupérer
la main.
Ce tableau. Et maintenant, il est verrouillé, il est vissé au mur.
Ouais, cette fois, il ne bougera plus. Donc on n'a pas décrit ce tableau, c'est un carré qui fait
100 par 100,
un mètre. On a une figure pour le coup très évanescente dont le visage est à peine lisible, disparaît. C'est un personnage attablé, légèrement penché, un fond en frottis horizontaux très simple dans une palette gris colorée comme vous pratiquez souvent, parce qu'on n'a pas encore parlé de la palette de la lumière. Et le visage tend à disparaître, comme il allait s'abîmer dans la folie, voilà, ou dans l'espace.
Voilà. Alors comme dit Joël Couve, très justement, il parle, j'ai adoré cette formule, de la tendresse des gris. Alors pas des gris, n'est-ce pas,
bon, encore un jeu de mots, c'est ça, des apostrophes à IGRI. Non, c'est pas comme ça.
Mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'avait fait M. Couve sur l'analyse de mon travail. Je suis en ségré encore aujourd'hui. Voilà.
Gérald, je vois que le temps tourne. Il me semble qu'on n'a pas rappelé depuis que nous avons repris l'antenne juste après Dry Groschen Hopper, depuis qu'on a repris le fil de l'émission.
Si, on a rappelé.
On a rappelé que l'exposition d'Hervé Thibault, peinture, se trouve à la galerie Jean-Louis Mandon. Elle a commencé hier le 8, c'est jusqu'au samedi 2 février. Horaire d'ouverture, celle de la galerie, de 14h à 20h. Et vernissage ce vendredi ci, vendredi 11 janvier, de 18h à 22h. Il reste encore effectivement peut-être maintes choses à aborder, telles que la palette, ou bien les couleurs, ou bien la lumière, ou je ne sais quoi. Il reste également peut-être à écouter Satie.
Non. Moi, je vous propose d'égrener des titres de tableaux de notre invité
sur Satie,
au fil des catalogues, parce qu'on va voyager. Vous allez voir. On essaiera de mettre un visuel. C'est très dur de parler de peinture, surtout quand c'est de la belle peinture comme ça à l'oral. Même si Monsieur Thibault pratique la kinesthésie et qui parle d'odeur de la couleur, d'odeur de la brume. À la radio, c'est quand même difficile de voir des couleurs quand on parle de mots. Mais peut-être que les titres, chères auditrices et chers auditeurs, vous feront voyager. Et pour donner la palette de ses voyages et de ses passions. Alors, New York aussi, on aurait pu en parler. Train au port Rambaud, des trains à l'arrêt, qui ne sont pas morbides. C'est rarement très très triste, mais il y a une mélancolie quand même qui peut s'installer. Les grands portiques, les amoureux du palais Saint-Pierre, brume sur le Rhône. Des couples d'amoureux saisis au hasard sur le vif d'après des croquis, j'imagine.
Oui,
et retravaillé en atelier.
Quel est le titre de la façade des Célestins, la nuit, exposée à la galerie Jean-Louis Mandon ?
Théâtre des Célestins, la nuit.
Théâtre des Célestins, la nuit. Ah bah très bien, tu ne l'as pas indiqué tout à l'heure, Gérard.
Des grands fûts, drapés de blanc, bourrasque, neige, place Bellecour, ma cour enneigée, c'est une table vide en plein hiver, avec de la neige sur les chaises. On attend impatiemment le retour du printemps et du soleil. Ma cour sous la neige. Rome, Sant Susanna, Rome, au bord du Tibre, Autoportrait, Villa Borghese, New York, New York. Et puis on a tout Venise aussi, Oisellerie de la Villa Borghese, Rome. On aurait pu parler de peintres génois comme Magnasco aussi, oui, qui sont un de vos maîtres.
Que
vos
j'adore.
Et moi aussi, de vos influences.
Gérald, fin d'émission, je crois qu'on est, obligé de faire ce qu'on fait assez régulièrement. Allez. Hervé Thibault, il vous faudra revenir.
Voilà.
Il vous faudra revenir pour une prochaine exposition. Parce que là, nous sommes dans toute fin d'émission. Il me reste à évoquer que les prochaines émissions sont déjà préparées, sont déjà prêtes. Disons, Gérald, les invités, Jean-Christophe Brangy est mercredi prochain. Et dans deux semaines, c'est l'exposition Corto Maltese. Dans trois semaines, peut-être peut-être le musée des Beaux-Arts, peut-être encore maintes et maintes choses. Il y a actuellement le Misanthrope qui a commencé au théâtre de la Croix-Rousse, et puis il y a prochainement à venir aussi le Menteur à la Renaissance. C'est intéressant aussi le théâtre, on n'a pas parlé de théâtre alors qu'on vient d'évoquer pourtant le théâtre des Célestins de nuit. Vous aimez peindre les théâtres, vous aimez y entrer?
J'adore
aussi
peindre les théâtres.
Aimez y entrer et voir les spectacles.
J'avais un abonnement sur Air Inter pour aller au théâtre.
Ah bon, bah c'est très bien. Gérald, on met les gymnopédies de
j'ai beaucoup de soutenu Roger Planchot aussi. Et Marcel Maréchal.
Du TNP. Gymnopédie, version de, je ne sais plus, qui est-ce qui joue cela au piano? Je crois que c'est Aldo Ciccolini, me semble-t-il.
Bah oui, pas mal. Bon,
bah, très bien.
Deux anciens invités vernissent aussi le même soir. Commencez par Monsieur Thibault, présent, et vous pouvez prolonger la soirée rue Burdeau. Vous allez voir, il y a aussi des belles choses à voir.
Bon, très bien. Spectaculaire 183 se termine. Ce Blues des Canuts numéro 518 ou 525, je ne sais plus à combien d'émissions ils en sont, va commencer à venir. Ben, merci beaucoup,
merci à vous d'être venu.
Émission à venir tout à l'heure. Mayday numéro 10, je ne sais plus. On n'arrête pas le prog. Et puis Canut 1 x 19h. Et puis enfin voilà. Bref, restez à l'écoute des programmes de Radio Canut. Allez voir cette exposition et nous vous remercions beaucoup. Merci Hervé Thibault. Merci à vous. Merci Jean-Louis Mandon. Gérald, à la semaine prochaine.
Oui.
Salut. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye.